BW. Magazine Environnement.
Au menu cette semaine, la 25e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, la COP25, qui se tient à Madrid en Espagne.
Le monde est à un tournant et d'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons sur un de ces deux chemins. L'un est le chemin de la capitulation où nous aurons dépassé, comme des somnambules, le point du non-retour. Et cette autre option est le chemin de l'espoir, un chemin de résolution et de solutions durables.
Mesdames et messieurs, bonjour, Kossivi Tiassou au micro. Rapport alarmant des scientifiques et désobéissance civile de citoyens, défilé de jeunes par millions. Depuis un an, les pays signataires de l'accord de Paris sont la cible d'une pression sans précédent que résume le mot d'ordre de ces deux semaines de réunion à Madrid. The time for action ou encore le temps pour l'action. Un message martelé sur tous les tons dès l'ouverture de la conférence de Madrid sur le climat. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de la COP25, l'humanité qui subit les conséquences du dérèglement climatique doit choisir encore entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant ou la capitulation.
C'est pourquoi je lance un appel pressant aux dirigeants politiques ici présents, car ils ne suivent pas le mouvement. Les sociétés bougent, les milieux d'affaires aussi, les autorités locales bougent, les jeunes bougent. C'est aux dirigeants politiques de profiter de ces élans, de ces mouvements et de mener le monde vaincre le changement climatique.
Les exhortations à agir vite et fort pour sauver l'humanité qui subit les assauts du dérèglement climatique se sont multipliées à Madrid lors de la COP25 qui risque toutefois de décevoir les attentes. Et Antonio Guterres appelle à choisir entre l'espoir et la capitulation.
Le monde est à un tournant et d'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons sur un de ces deux chemins. L'un est le chemin de la capitulation où nous aurons dépassé, comme des somnambules, le point du non-retour, mettant en danger la santé et la sécurité de tous les habitants de cette planète. Voulons-nous vraiment une autre option ? Et cette autre option est le chemin de l'espoir, un chemin de résolution et de solutions durables. Un chemin dans lequel les énergies fossiles restent là où elles devraient être, dans le sol, et où nous parviendrons à la neutralité carbone d'ici 2050.
DW.
Antonio Guterres est devant les représentants des quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris, dont une cinquantaine des chefs d'État et de gouvernement à l'ouverture de la COP25 à Madrid en Espagne. Le message du secrétaire général des Nations Unies n'est pas passé inaperçu. Il est bien reçu par Aissatou Diouf du réseau Climat et Développement délégué à la COP25 à Madrid.
Je pense que le secrétaire général des Nations Unies a parfaitement raison. En 2015, l'accord de Paris a suscité énormément d'espoir, particulièrement pour les pays en développement et les pays africains fortement affectés par le dérèglement climatique. Mais 4 ans après l'accord de Paris, nous voyons que les pays développés tardent à traduire en actes concrets leur engagement, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également en termes d'accessibilité des financements climatiques. Donc aujourd'hui, on voit que les extrêmes climatiques se démultiplient un peu partout. En Afrique, cette année, on a vu les événements au Mozambique, par exemple. Donc, il est temps qu'aujourd'hui, durant cette COP24, que les pays développés respectent leurs engagements et prennent des actions concrètes pour répondre aux défis climatiques. Sinon, je pense que la confiance entre les pays du Nord et les pays du Sud va subir un grand coup et cela va se refléter également dans les négociations sur le climat.
Quand le secrétaire général des Nations Unies, l'homme qui est censé rassurer le monde, dit que le monde est à un tournant et d'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons sur un de ces deux chemins, c'est-à-dire de choisir entre l'espoir et la capitulation, n'est-ce pas trop dit ou bien trop pessimiste ?
ce n'est pas trop pessimiste. On est tous conscients qu'aujourd'hui, les engagements des États sont insuffisants pour répondre aux défis climatiques et qu'il faut dès maintenant relever le niveau de l'ambition et diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, l'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué. Ces émissions sont allées encore à la hausse et qu'aujourd'hui, entre le discours politique et les actions concrètes sur le terrain, il y a un gap qui est là. Et on ne peut pas continuer de négocier d'année en année sans apporter des réponses aux communautés qui sont les plus affectées par le changement climatique. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer à avoir de l'espoir au processus onusien, mais il est temps également de fournir des réponses concrètes. Le secrétaire général des Nations Unies avait appelé au mois de septembre dernier les États à aller vers plus d'ambition en les invitant à un sommet à New York. On a vu que c'était presque les pays en développement ou les pays fortement impactés qui se sont engagés à mettre sur place des plans d'action climatique beaucoup plus ambitieux que les pays développés et qu'aujourd'hui, on le fait tous au nom de l'équité et au nom de la justice climatique. Il appartient aux pays développés de prendre leurs responsabilités, sinon on va perdre. On va perdre ce combat contre le dérèglement climatique et ce sont les populations des pays en développement, des populations des pays africains qui vont davantage en souffrir.
Et aussi des pays insulaires notamment. Mais vous faites souvent, vous au niveau de la société civile et des organisations de la société civile, vous faites souvent part de vos frustrations face à la lenteur des actions pour lutter contre les changements climatiques. Est-ce dire que l'accord de Paris et qui avait suscité beaucoup d'espoir, fait désormais partie du passé?
Non, pas du tout. Je pense que l'esprit de l'accord de Paris est encore là. L'esprit de l'accord de Paris est toujours vivant. Par contre, ce que nous demandons, c'est que pour maintenir l'esprit de l'accord de Paris, dès cette COP-là, il faudrait que les États commencent à s'engager pour préparer l'année prochaine où ils doivent arriver à Glasgow dans le cadre de la COP26, avec des plans d'action climatique chiffrés pour montrer comment ils comptent faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour y arriver, c'est ici, à Madrid, dans le cadre de la COP25, que ce travail-là doit commencer, que les gens doivent avoir une certaine visibilité. Donc pour nous, l'esprit de l'accord de Paris est toujours là. Rappelons que cet accord-là est universel, mais il faut qu'on le maintienne en vie. Et pour le maintenir en vie, il faudrait que les États mettent beaucoup plus de détermination pour qu'on arrive aux résultats escomptés. Nous, on y croit. On n'a pas le droit de ne pas y croire parce qu'on voit tous les jours comment nos communautés souffrent à cause du réchauffement climatique et que nous pensons que grâce à l'accord de Paris, on peut leur offrir des moyens, des technologies et des financements pour renforcer leur résilience.
Mais est-ce que vos appels à agir de façon radicale et urgente, est-ce que ces appels parviennent aux décideurs?
En tout cas, à l'ouverture de la COP25, dans le cadre de la plénière, les discours que nous avons entendus des pays développés permettent de croire qu'ils sont conscients de l'urgence d'agir et de ne pas repousser l'échéance. Donc, nous pensons qu'ils sont conscients que c'est maintenant ou jamais. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est maintenant, il faut aller au-delà des discours et matérialiser cela. Donc c'est tout ce que nous demandons ici dans le cadre de cette COP25-là.
Et dites-nous, quels sont les points ou bien les grandes décisions qu'on peut espérer lors de cette COP espagnole?
Alors, je pense qu'un des grands dossiers de cette COP25-là, ça va être les discussions autour des mécanismes de marché carbone. Donc, rappelez juste que l'année dernière, dans le cadre de la COP à Katowice, les États ne s'étaient pas mis d'accord sur les règles sur les règles d'opérationnalisation de l'article 6. Donc, ces discussions-là vont continuer ici dans le cadre de la COP25. Donc, et nous espérons qu'on puisse avoir un accord équitable et juste pour l'ensemble des pays. Autre sujet également, ça va être ce qu'on appelle les pertes et les dommages. On parle beaucoup d'adaptation, mais je pense que dans beaucoup de parties du monde, dans les petits États insulaires et en Afrique, il y a des lieux où on ne peut plus s'adapter parce que les pertes sont irréversibles. Dans ce cadre-là, on parle de pertes et dommages. Et pour nous, il est important qu'on puisse mettre sur la table des financements additionnels à l'adaptation pour pouvoir accompagner tous ces pays-là qui sont en train de vivre au quotidien les pertes et les dommages. Et autre point qui est important, comme vous l'avez souligné tantôt, c'est que les États doivent s'inscrire dans une trajectoire pour limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degrés, comme le stipule l'accord de Paris. Et ça, on doit y arriver l'année prochaine. Mais si on en commence pas les travaux ici à Madrid, cela voudrait dire qu'il serait très difficile d'y arriver à Glasgow l'année prochaine. Donc vraiment, en résumé, je pense que ce sont les trois grands enjeux de cette COP25-là. Et il faudrait qu'on puisse sortir avec des conclusions robustes.
Aissatou Diop du réseau Climat et Développement. Les signataires de l'accord de Paris réunis à Madrid jusqu'au 13 décembre sont pressés de toutes parts d'accélérer les mesures pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre et espérer encore un peu limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
Alucas lo entoñé, yo lo va a ver al un bolo beso lo no.